Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes le 20 septembre 2019 et vous écoutez le Café de l'e-commerce. Je suis Laetitia et je suis accompagnée d'Adrien.
Bonjour à tous, vous écoutez l'épisode 8 du Café de l'e-commerce pour suivre toute l'actualité du marketing digital et de l'e-commerce. Le Café de l'e-commerce vous propose de faire votre veille en suivant cette actualité différemment dans vos oreilles.
Si vous aimez ce que vous allez écouter, laissez vos commentaires ainsi que 5 étoiles si vous nous écoutez sur Apple Podcasts.
N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter et à nous suivre sur Instagram et Facebook pour ne rien rater de l'actualité et des coulisses du podcast. Les liens sont dans la description.
Nous sommes un podcast indépendant et nous ne sommes affiliés à aucune société privée. Notre avis n'engage que nous.
Au menu de ce 8e numéro du Café de l'e-commerce, de nombreuses actualités et un petit quiz en fin de podcast. Nous n'enregistrons pas ensemble aujourd'hui, mais nous ne lâchons rien et sommes là pour l'enregistrement.
Vous n'avez pas le temps de faire de la veille, on vous sert un bon gin tonic et un Moscow Mule sous forme de news choc du secteur.
Alors Laetitia, comment ça va et comment a été ta semaine ?
Bah ça va très bien, merci, j'ai passé une super semaine. Et comme tu le sais, la semaine prochaine, on sera à Paris Retail Week. Donc on est tous en pleine préparation, d'autant que toi, je sais que tu auras un stand sur l'événement. Donc je pense que c'est plus toi qui dois être en pleine émulation là.
Je suis en train de finaliser, donc j'ai une présentation mardi prochain pour la société dans laquelle je travaille. Je suis en train de finir la présentation et à mon avis ça va être un bon salon. En tout cas il y aura pas mal, on sait qu'il y a toujours beaucoup de monde et c'est le plus gros salon de l'e-commerce en France. Tu avais quelques chiffres je crois Laetitia sur le salon ?
Ouais, alors déjà Paris Retail Week, ça s'est pas toujours appelé Paris Retail Week, avant c'était e-commerce Paris pour les vieux comme Adrien et moi.
Je continue à l'appeler e-commerce Paris en fait.
Ouais, moi aussi, je dis jamais Paris Retail Week. Et en fait, bon, c'est un salon comme tu disais qui est dédié à l'e-commerce. Je crois que avant ou une année sur deux, c'est aussi avec un focus sur les magasins. Je crois que ça s'appelait Equipe Mag aussi à l'époque. En gros, ça réunit plus de 25 000 visiteurs. 600 exposants, et là donc c'est la 5e édition. On a environ, je crois, plus de 200 keynotes qui sont organisées. Voilà, bon, comme le disait Adrien, c'est un peu la grand-messe de la rentrée et de l'e-commerce. Tant du côté e-commerçant que solution provider, c'est vraiment le lieu où on doit être au mois de septembre.
En fait, la raison pour laquelle c'est tellement populaire, c'est que c'est un événement qui est gratuit sur 3 jours. Donc, ce n'est pas condensé en une journée. Et même 3 jours, c'est déjà c'est assez dense. Il y a beaucoup de conférences. C'est souvent pour les marques et pour n'importe qui, le superbe endroit pour apprendre dans les conférences, voir des retours d'expérience et se former. Dans un seul et même endroit, on a tout l'écosystème, alors pas tous, mais on a un grand nombre d'acteurs de l'écosystème e-commerce, e-marketing, et ça illustre de toute façon parfaitement la vision qu'on avait sur le podcast, d'essayer de couvrir l'ensemble de l'écosystème, de donner le plus d'informations possible. Donc c'est vrai que ce salon était, et pour ça il est assez utile. Il y avait autre chose, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup de le salon est très grand, 3 jours c'est long et assez éreintant, donc la plupart des visiteurs quand ils viennent c'est pour quelques heures et en général ils font quelques confs, ils se baladent dans les stands pour voir un petit peu les nouveautés et puis voilà, mais ça draine beaucoup de personnes et je sais pas si t'as eu cette expérience Laetitia dans le passé, mais c'est toujours amusant de voir un jeune qui sort d'école et qui va te déposer son CV, juste après t'as le petit e-commerçant qui vend 3 baguettes parce qu'il veut lancer son site internet et ensuite t'as un directeur du CAC 40 qui vient pour prendre des infos, donc tu sais jamais sur qui tu vas tomber, il faut jamais juger les personnes par leur look.
Je me souviens d'un e-commerce Paris il y a quelques années, donc Adrien et moi on n'a jamais travaillé dans la même boîte, mais on avait nos boîtes travaillées ensemble et une année, Adrien m'a envoyé quelqu'un, alors je sais pas s'il écoutera le podcast, mais c'est quelqu'un qui, comme le dit justement Adrien, vient toujours sur Salon e-commerce Paris avec les mêmes problématiques d'année en année et on comprend jamais rien à son projet. Et alors Adrien, il aime bien faire ça, il aime bien vous envoyer des gens en disant non mais allez la voir là-bas, elle saura vous répondre. Et je me souviens que je t'avais maudit parce que je comprenais rien. Donc effectivement, alors il y a du tout venant, mais il y a aussi des gens avec des vrais projets, des vraies sociétés, et c'est ce qui fait tout le charme de cet événement.
Il y a des, c'est vrai qu'on retrouve donc la plupart des acteurs, de l'e-commerce, donc côté éditeur qui vont avoir leur stand, qui vont accueillir les personnes pour leur faire des démos, pour leur expliquer ce qu'ils font. Quand on ne vient pas de l'e-commerce, ça peut être un petit peu perturbant parce qu'on peut avoir la perception que tout le monde fait la même chose et c'est assez amusant toujours de voir un peu les messages marketing, cible ton client au bon moment avec une approche personnalisée, avec le bon produit. Enfin, tu peux appliquer ça un peu à n'importe quoi. Moi, je crois que la première fois que j'avais fait le salon, c'était il y a plus de 10 ans et il y a beaucoup de sujets qui sont toujours les mêmes. C'est des sujets communs qu'on retrouve. Mais cela dit, je trouve que là où le salon Paris Italo Week, il est quand même assez intéressant et je suis assez content d'y aller, c'est que ça se veut le plus large possible. Donc, on va avoir des acteurs de la logistique, du paiement, de la construction site, des agences et même des startups, un coin startup où tu vas avoir des tout petits stands.
Exactement. T'as aussi des solutions. Il n'y a pas que les grandes solutions qui exposent. Je pense notamment à des... bien sûr, on va encore reparler de Salesforce Commerce Cloud, mais il peut y avoir aussi du PrestaShop, du WordPress, des acteurs pas moins importants, mais en tout cas qui n'ont pas forcément tous les mêmes cibles qui sont présents. Et moi, ce que je remarque aussi d'année en année, c'est que y a des nouvelles solutions sur des nouveaux segments qui apparaissent. Toi, Adrien, tu peux très bien parler du post-achat, mais moi, en tout cas, sur la partie contenu, gestion de l'information produit, il y a quelques années, il n'y avait pas beaucoup d'acteurs, et maintenant, ils sont hyper nombreux. Donc voilà, il y a des nouvelles, parce qu'il y a aussi des nouveaux besoins dans l'e-commerce. Donc c'est vrai qu'il y a de tout, et c'est plutôt bien, parce que j'ai l'impression que chaque partie d'un bon e-commerce n'est pas oubliée sur ce salon. Et c'est hyper important.
Alors, entrons directement dans le vif du sujet, Laetitia, avec quelques news. En news international, j'avais deux news. La première que je voulais partager, c'est quelque chose qui est vraiment très contre-intuitif. Quand la première fois j'ai lu ça, ma première réaction était assez, j'étais assez étonné. Ça se passe aux États-Unis et c'est Nordstrom, c'est un department store, donc ça serait un bon marché, on va dire, qui accepte le retour dans leur magasin de produits qui auraient été achetés chez les concurrents sur Internet. Donc, faut se rendre compte que beaucoup de clients aujourd'hui vont acheter en ligne. Ce que vont faire là les retailers, le challenge, c'est d'essayer de faire en sorte de les faire venir en magasin. Donc, on a beaucoup parlé, on le voit tout. Et d'ailleurs, c'est un gros sujet sur du salon e-commerce. Ça va être l'approche multicanal. Comment est-ce qu'on peut remettre les magasins dans le process d'achat du client et et donc là, on voit qu'un acteur aux États-Unis va accepter les retours en ligne. Donc un Macy's qui sera un concurrent direct de Nordstrom, on va pouvoir acheter sur le site de Macy's et retourner ensuite en magasin chez Nordstrom. Et alors donc ce qui a été décidé, c'est justement d'accepter ces retours. Une fois qu'on a le magasin, le client, on va lui proposer des services additionnels de réparation, d'expertise, d'accompagnement. Et intelligent de la part de Nordstrom, c'est d'expliquer lors de l'interview, et c'est un article que vous retrouverez sur Bloomberg, c'est que en fait la possibilité d'acheter un produit, on peut la retrouver n'importe où. Donc pour le client, c'est très facile d'acheter tous les produits un peu à différents endroits et ils n'ont pas l'exclusivité de tel ou tel produit. Par contre, si on met au cœur de la marque, l'objectif, c'est l'engagement et le client, on lui propose des services additionnels et on fait tout pour convaincre le client qu'on est meilleur que la
concurrence. Le retour comme un prétexte à un service additionnel, alors qu'aujourd'hui, quand on retourne quelque chose, il ne se passe quasiment plus rien en fait.
Okay. Exactement, et puis on sait que le retour, c'est quelque chose qui est très critique. En pré-achat, c'est un des freins où c'est le critère qui est le plus angoissant pour le client, c'est en combien de temps il va le recevoir et quelles sont les politiques de retour. Donc là, j'ai trouvé ça que c'était assez intelligent. Enfin, après, il faut voir comment ça se matérialise. Est-ce que c'est juste un effet? Alors pour le moment, ils vont le limiter à un magasin à New York. Il faudra voir comment est-ce que ça évolue tout ça.
Moi, je poursuis avec la politique de retour. Du coup, je vais vous parler d'AliExpress qui propose désormais le retour gratuit et le remboursement dans 8 pays. Donc, AliExpress, qui fait partie du groupe Alibaba, va pratiquer le retour gratuit dans 8 pays, et notamment la France. Alors, en clair, c'est rendre l'achat plus simple pour Alibaba et moins dissuasif et plus instinctif de plus avoir cette contrainte du retour payant ou que de ne pas être remboursé qui apparemment n'existait pas. Alors cette politique va concerner l'électronique grand public, les bijoux, les chaussures, les produits cosmétiques qui sont les catégories les plus publicitées sur la marketplace. Les autres pays concernés, la Russie, l'Espagne, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada et l'Australie. C'est quand même assez énorme pour le groupe. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est d'usage dans le milieu, mais il y a quand même des précédents comme Asos qui maintenant fait un peu machine arrière et se rend compte que le retour gratuit, c'est pas aussi simple que ça, et surtout ça peut être un facteur de friction dans le parcours d'achat. Donc voilà, moi je salue, mais je suis pas forcément hyper convaincue.
Quand j'étais, j'ai une période où j'achetais pas mal sur AliExpress, donc l'inconvénient c'est d'attendre un certain temps pour recevoir le produit. Tu te dis peut-être, peu importe, je vais attendre. Si le produit est pas bon, de toute façon le prix est tellement bas que c'est pas très grave s'il est perdu. Donc je trouve que c'est assez smart. Et moi qui consommais, je ressens t'es bien la frustration d'acheter mais de pas avoir de retour, de possibilité de remboursement. Toujours aux États-Unis. On a donc on parle chaque semaine d'Amazon qui grandit d'année en année. Une des grandes innovations qu'ils avaient faites il y a quelques années, c'est Amazon Prime, la possibilité de souscrire à un abonnement et d'avoir beaucoup de services associés à ce statut Prime. Le principal étant la livraison gratuite pour le jour suivant. Walmart s'aligne avec une livraison illimitée pour $98 par an. Alors là où Amazon Prime aux États-Unis est à $119, on a 98 pour Walmart. Et selon leurs estimations, 75% des clients, ça s'appliquerait pour 75% des clients qui passent leurs achats avant 15h pourraient recevoir gratuitement leurs produits pour le lendemain. Donc contre-attaque de Walmart, et ça va être toujours intéressant de voir quels sont les leviers qui sont utilisés par ces différents retailers pour soit innover ou soit combattre et se mettre à niveau, ou voire même concurrencer Amazon sur son propre terrain.
Bon, on passe au focus, Adrien ?
Oui, alors peut-être juste avant le focus, parce que je sais qu'on voulait parler d'un sujet qui nous tenait à cœur, je voulais juste te parler, Laetitia, d'une étude de Deloitte. Alors, pourquoi je voulais en parler ? Parce que il y en a beaucoup des études qui sortent, et chacun a sa légitimité ou pas. J'ai trouvé, je ne sais plus comment j'ai trouvé sur ce lien, sûrement sur LinkedIn, ça a été posté par quelqu'un, et je l'ai ensuite trouvé. C'est un article qui se lit très facilement, je pense que ça prend 5 minutes à lire, et ce que j'ai beaucoup aimé, tu vois, c'est d'habitude quand on prend des études Accenture, EY, Deloitte, etc., c'est des études de 400 pages, tu comprends rien et c'est assez lourd à digérer. Et je ne sais pas comment ça a été fait, mais là, sur une page, ils ont synthétisé. Le problème, c'est que c'est tellement synthétisé que du coup, pour les sources, c'est un peu plus difficile et parfois, tu aimerais avoir plus de matière. Mais en l'occurrence, ce sont les tendances du retail pour la deuxième partie de 2019. Mm-hmm. Et en fait, il partait de deux constats. Le premier, c'est les coûts qui augmentent. Donc pour le marque, ça devient de plus en plus difficile. On fait plus de promotions. La logistique, on a de plus en plus d'attentes en termes de livraison, logistique. Et ça devient de plus en plus compliqué. Les attentes des consommateurs continuent à augmenter. Ils sont de plus en plus exigeants. Et l'approche multicanale est au cœur de tout. On a certains retailers en moyenne qui ont 20%, entre 10 et 20% de toutes leurs ventes qui se font en ligne versus les magasins. Donc il y a, on le commente, en plus on le voit sur chacun des épisodes du Café de l'e-commerce, des magasins qui ferment, qui sont en banqueroute ou en faillite, et donc ça devient, c'est très compliqué. Donc en partant de ce constat-là, les grandes tendances qui pour le reste de 2019, mais on peut le voir que ça ne va pas s'arrêter au 31 décembre, mais c'est également vrai pour 2020, alors elles sont en trois groupes. Le premier, c'est l'Orient qui surpasse l'Occident. Je vais revenir dans une seconde là-dessus. La révolution dans le in-store et la réinvention ou la renaissance du retail. Donc le premier point, c'est on n'a jamais été aussi innovant en Europe et aux États-Unis pour les nouvelles solutions, les nouveaux usages, des nouvelles manières d'attaquer ou en tout cas d'approcher le consommateur. Et en même temps, quand on compare en Asie et notamment à la Chine, ils vont infiniment plus vite, ils innovent encore plus vite, et par ailleurs, le consommateur, le taux d'adoption côté consommateur, il est encore plus rapide. Donc on innove, mais en Chine notamment, ça va encore plus vite, donc on va voir que les prochaines années, l'innovation risque même de venir elle vient déjà de là, mais elle risque de venir encore plus de là dans d'autres secteurs. Le deuxième gros volet de ces tendances était la révolution dans le in-store, avec plus d'expérience dans les magasins, et vraiment mettre l'expérience utilisateur et l'éco-responsabilité au cœur du process. Et enfin, le dernier point, c'était sur la renaissance du retail. Deux aspects. Enfin, le premier, c'est tout l'aspect social, et ça, tu en parles chaque semaine et tu en parles constamment. C'est comment est-ce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux sont au centre de tout pour une marque dans l'acte d'achat. Et le deuxième, c'est le re-commerce. Re-commerce, c'est le reverse commerce, et c'est en fait toute l'activité e-commerce de seconde main. Donc en France, on a un back market par exemple, ou d'autres qui permettent de travailler sur des produits qui sont en seconde vie. Donc tu revends des produits utilisés, tu les as réparés. Donc tout ce nouveau marché de re-commerce, alors j'aime pas trop cette nouvelle terminologie, mais faut s'y faire, c'est également une grosse tendance qui est là pour cette deuxième partie.
Je suis contente. Allez, on passe au focus. Adrien, cette semaine, tu voudrais nous parler des Digital Native Vertical Brands.
En fait, on en parle chaque semaine de manière plus ou moins directe. On cite certains exemples. C'est même DNVB en acronyme. Il y a des acronymes pour tout aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que ces marques-là sont des marques avec un modèle qui est assez différent par rapport aux marques classiques. Le point de départ, ça a été de se dire on va tout contrôler la chaîne de valeur et la chaîne de production. Donc, de la fabrication du produit jusqu'à la distribution, on va tout contrôler cette chaîne pour offrir au mieux le meilleur produit aux clients. Ils peuvent toujours passer par des revendeurs tiers, mais en tout cas, ils vont avoir leur canal de distribution direct, ce qui va permettre de se couper des intermédiaires. Ça a beaucoup d'avantages. Le premier, en termes de coûts, ça va permettre de diminuer la marge qui va être donnée à un prestataire tiers. Et le deuxième, c'est de lever certaines limitations qui pourraient exister avec plusieurs intermédiaires.
Donc un vrai contrôle de son e-commerce de A à Z, quoi.
Exactement. Et en fait, c'est vraiment mettre le produit au centre de son offre. On le pense et on le design pour s'adapter spécifiquement aux besoins visés sans des contraintes de distribution. Et l'autre aspect, c'est construire des marques fortes. On met en avant un produit, mais c'est avant tout une marque, et on cherche à créer ceci avec les clients, avoir des ambassadeurs qui croient en la marque. Et d'ailleurs, un indicateur clé de performance assez important pour ces Digital Native Vertical Brands, c'est l'NPS, le score de recommandation, c'est Net Promoter Score, c'est un indice de recommandation de la marque auprès d'autres clients.
Ouais, et moi j'ajouterais que généralement ces marques-là, elles ont une empreinte sur les réseaux sociaux extraordinaire. Qu'on retrouve pas chez d'autres retailers plus classiques. D'ailleurs, souvent, ce sont des marques qui commencent leur publicité et leur notoriété via les réseaux sociaux. Et quand je parle des réseaux sociaux, c'est aussi les ambassadeurs. Les ambassadeurs vont pas forcément être d'abord des clients, mais peut-être et souvent des influenceurs et des influenceuses. Donc là, on est vraiment dans une stratégie digitale différente de ce qu'on a pu voir il y a encore 20 ans. Quand un retailer avant voulait lancer un parfum, bah, il trouvait une égérie, il trouvait son mannequin phare, il trouvait sa publication phare. Donc, je sais pas, pour un parfum, ça va être une grande mannequin très connue qui va aller dans le L. Et voilà, et on va matraquer ça. Aujourd'hui, les Digital Native Vertical Brands, c'est pas vraiment comme ça qu'elles fonctionnent. Et souvent, ça va être des marques qui vont pas forcément mettre de côté l'aspect magasin en propre, parce qu'on voit que ces marques-là, finalement, elles arrivent très vite avec un magasin. Et un peu partout d'ailleurs, pas seulement, je parle pas de pop-up store, je parle de vrais magasins, pas éphémères, qui sont bien implantés.
Tu sais, un autre élément différenciant très fort, c'est, tu reprends l'exemple des parfums, tu vas avoir une marque qui va avoir 50 parfums. Ici, la philosophie, c'est de se dire, on va faire un seul parfum, ou deux ou trois maximum, mais on va les faire bien, on va pas investir autant sur le marketing ou sur l'égérie, on va le mettre dans le produit, on va faire un produit éco-friendly, on va adresser on va faire un produit qui plaît à notre cible, on va les écouter, on va avoir quelque chose d'itératif et on va se focaliser sur peu de produits et pas faire de la sur-segmentation pour avoir un produit sur une niche. Mmh,
exactement. Et puis ça va rester des produits qui vont toucher des millennials, bien souvent. Et en exemple, moi, quand tu préparais ce focus-là, le premier exemple qui m'est venu, c'est Balzac Paris, ou alors Cézanne, qui est un petit peu plus ancestral que Balzac, parce que c'est des marques que moi j'affectionne, que j'achète, voilà, que je suis. Et c'est aussi des marques, du coup, qui, on parlait tout à l'heure de re-commerce, ça va être des marques qui vont vraiment réfléchir à leur empreinte carbone, à comment est-ce qu'on fait du e-commerce. Je pense à Balzac Paris qui refuse maintenant lorsque tu achètes une paire de chaussures, de te mettre une boîte de chaussures qui t'avertit sur les coûts de livraison, sur les retours, parce que ça va être des marques qui vont pas te proposer des retours gratuits. Et tout ça, le consommateur est prêt à l'accepter.
Il y a quelques mois, j'ai dû m'acheter un matelas. Oui, voilà. Donc il y a les marques qu'on connaît, les Dunlop Pillow, etc. Tu vas sur le site, ça te casse le crâne parce que tu as 50 milliards de modèles.
Les fiches produits sont illisibles, c'est pas possible.
En tout cas, c'est compliqué. Et j'ai acheté un Casper. Casper, tu sais combien il y a de matelas ?
Il y en a qu'un, deux, trois.
Il y en a deux, le normal et le fin. Et ça m'a tellement plu que 6 mois plus tard, j'en ai acheté un deuxième.
Voilà, et tu le disais, un produit très bien fait, très bien décrit, avec des ambassadeurs, une publicité qui va straight to the point, qui s'attaque à sa bonne cible. Je pense le secret des digital native brands, quoi. Ça s'étend sur d'autres produits. Je pense par exemple à Bergamot ou alors By Charlotte qui vend des plantes. Instinctivement, quand tu as envie d'acheter une plante, il y a encore quelques temps, tu t'allais chez ton fleuriste. Moi, je suis une adepte de bergamote, par exemple.
Et la raison pour laquelle on en parle maintenant et on en parle souvent, c'est que ce sont des marques qui sont en très forte croissance et qui adressent les millennials. Donc, il est fort à parier qu'elles vont se faire racheter par des acteurs traditionnels et si elles ne veulent pas se vendre, qu'elles vont continuer à grandir et qu'on les verra de plus en plus et voire même les acteurs traditionnels s'inspirent, regardent un petit peu comment ces nouvelles marques communiquent, travaillent et font leurs produits. Comment ça s'appelle ? Dollar Chef Club, on avait parlé il y a quelques semaines, je crois, qui s'était fait racheter par Procter & Gamble, si je me souviens bien, en tout cas par un très, très, très gros CPG. Donc c'est des cibles d'acquisition qui sont... c'est juste canon pour les grosses sociétés parce qu'elles ont un superbe CRM, super produit, une niche, une communauté qu'ils ont développée et un NPS très important.
Okay. Allez, on passe à la catégorie levée de fonds et rachat. Adrien, tu veux nous parler de Shopify ?
Exactement. Donc Shopify, je vais d'abord revenir un petit peu en arrière en juin dernier. En juin dernier, ils ont annoncé, Shopify fait une annonce qu'ils lançaient leur réseau de livraison, le Shopify Fulfillment Network. Et l'idée, c'est de permettre aux marchands de gérer pour eux l'envoi et la logistique. Je te donne un exemple très très simple. Aujourd'hui, tu parlais de parfum, tu veux vendre ton parfum sur Shopify. Shopify va te proposer l'outil e-commerce, donc la solution, le site web si tu veux. Mais tu vas également, grâce à ce réseau-là, tu vas pouvoir envoyer le produit Et autre, Shopify va utiliser l'intelligence artificielle et va savoir, bon, bah, il faut que je l'ai plutôt dans mon entrepôt qui est proche de Paris, il faut que j'en ai tant. Et dans mon entrepôt du sud de la France, il faut que j'en ai tant parce que je prédis ou j'ai analysé que la demande va être plus forte à tel et tel endroit. Et ce qui va permettre ensuite, quand un client va vouloir acheter le produit, il utilisera l'entrepôt qui est le plus proche. J'ai pris un exemple très très simple, ouais. Tu imagines sur les États-Unis, sur l'Europe et ailleurs ce que ça peut représenter. Donc ça, c'est le réseau. Donc là, Amazon le fait déjà depuis des années. C'est pour ça que c'est intéressant que c'est Shopify qui était jusque-là juste une solution software de création de sites web, commence à faire du réseau, de la logistique, de la supply chain, et va proposer ce genre d'outils. Et la news qui est arrivée il y a quelques jours, il me semble, ou ce mois-ci en tout cas, c'est le rachat pour 450 millions de dollars. J'ai trouvé ça vraiment un chiffre assez élevé pour une société comme Shopify, une société qui s'appelle Six River Systems. Et en fait, ça permet d'avoir des robots intelligents dans les entrepôts. Donc ça va complètement en phase, c'est complètement en phase avec le fulfillment network qu'ils ont développé, qu'ils ont annoncé en juin. Ça va permettre d'avoir des robots qui t'aident à prendre tel paquet à tel endroit et dans les entrepôts. Donc on voit que Shopify investit dans la supply chain et c'est quoi le signe? Moi, il y en a deux. Le premier, c'est proposer de plus en plus des outils pour les retailers et des outils packagés end-to-end. Donc ça va être très facile pour un retailer. Pour le moment, on ne parle que du SMB. Donc on n'est pas en train de parler des grands comptes. Voilà, mais ça va venir une fois qu'ils seront capables d'avoir la scalabilité pour attaquer le SMB sur tous les pays à l'international. Je vois pas ce qui pourrait les retenir pour attaquer les grands comptes. Et la deuxième chose, face à des acteurs plus traditionnels du software, les Salesforce, Oracle et compagnie, là ils ont une vraie offre différenciante, mais encore une fois, par rapport au premier point, pour le moment, il s'adresse à un marché qui est le low mid market, là où ces autres acteurs du software sont sur les grands comptes. Mais on voit de plus en plus, il y a une démocratisation de ces solutions. Donc, voyons comment ça évolue. Mais pas mal de news sur Shopify. On avait pas retenu une news, mais ils ont également le patron, c'est un jeune. Je crois qu'il est plus jeune que moi. Quand on voit ça, on se dit que j'ai raté ma vie. Mais c'est assez inspirant parce qu'il a investi également dans un fonds pour aider la planète. Je ne sais plus exactement ce qu'il va faire, mais il va reverser une partie de ses fonds pour soit la reforestation ou aider pour la planète. Donc il a des causes qui semblent justes et il y a beaucoup de news, de plus en plus de news sur Shopify. Donc ils sont en croissance et ils le font savoir.
Alors moi, je voudrais parler de Next40 ou Next40, je ne sais pas comment on le dit, mais voilà. Donc cette semaine a eu lieu le grand événement France Digital Day. En marge de cet événement, il y a une liste qui a été dévoilée lors d'un dîner à l'Élysée où Emmanuel Macron a reçu 40 pépites de la French Tech. 40 pépites, alors c'est 40 startups les plus prometteuses sur des critères plus ou moins comment on va dire ça, allez, pas aléatoires, mais qui sont pas uniquement des critères de business. L'objectif pour la French Tech, bah, c'est de se rapprocher de la bourse et de faire en sorte qu'il y ait davantage de licornes en France. Aujourd'hui, on en compte 7. L'objectif pour 2025, c'est d'en avoir 25. Et puis, ce qui a été, moi, pourquoi ça m'a intéressé, c'est au-delà de l'aspect tech que je suis de manière assez assidue, c'est que quand même, il y a des retailers il y a des gars du retail et il y a des gars de la retail tech, voilà, donc des solution providers dédiés au retail. Adrien, tu saurais me citer quelques marques comme ça, enfin quelques marques non, mais quelques retailers qui ont été promus dans cette liste? Déjà, il y a l'incontournable VP, voilà. J'attendais que tu le dises, mais...
ouais, non, bah, je ne savais pas lequel tu voulais, parce que... vente privée, ouais. VP vente privée, il ouais. Y a Vestiaire Collective, on parle de temps
avait,
en temps.
Ouais, on avait déjà parlé, qui avait levé pas mal de fonds cet été.
Mano Mano, ouais. Marketplace pour le bricolage jardinage, Back Market, on l'a cité ouais. Tout à l'heure.
Sur reconditionnement
des téléphones.
Evaneos, on a noté sur le tourisme, Emmaneos, je trouve ça vraiment plutôt bien parce que, au-delà du fait que je les connais plutôt bien, je trouve qu'ils démocratisent, et en tout cas au niveau du tourisme et des expériences qui cherchent à proposer tant au niveau de l'expérience d'achat que de l'expérience proprement dite du voyage, je trouve qu'ils sont hyper précurseurs et j'étais vraiment surprise et contente pour eux.
Il y a également, ouais, enfin, Recommerce également qui est dans le même secteur que Back Market. Donc ça, c'est pour les retailers. Et peut-être dans la retail tech, les noms qui sont intéressants pour nos auditeurs, c'est Content Square. On en a parlé suite aux acquisitions qu'ils avaient faites. Donc, plateforme d'optimisation en ligne de l'expérience client.
Il y a Miracle aussi.
Miracle Marketplace, donc ça permet d'avoir une place de marché sur son propre site. E-Advise, c'est le chat. Alors, ils font sûrement beaucoup plus que ça, mais moi, je suis resté sur la solution de chat qu'ils proposent pour les commerçants.
Ouais. Wind.
Wind, exactement. Ouais. Donc, plateforme, on va dire OMS, solution un petit peu à tout faire, boîte à outils pour l'omnicanal, pour les grands retailers.
Donc en fait pour ces entreprises-là qui sont listées parmi les 40 plus prometteuses, l'État a mis quand même des moyens en place. Ils ont réuni les plus grands investisseurs institutionnels français, des banquiers, des assureurs. Ils ont été sollicités et ils ont promis d'investir 5 milliards d'euros au moins sur les 3 prochaines années à venir.
C'est pas encore très clair qu'est-ce que ça
non.
Quel est l'impact que ça va avoir pour ces sociétés-là. Je pense que déjà, ce sont des belles.
C'est des beaux noms. On a vu des OVH, des Doctolib, Miro aussi, qui a fait une superbe levée de fonds cet été. Oui, l'objectif, c'est qu'elles deviennent toutes des Algolia et qu'elles soient des superbes licornes.
Ouais, c'est un petit peu comme un harpon qu'on va lancer et puis on espère que ça va attraper quelque chose.
Ouais. Après, oublions la superstition un peu française de se dire que ça ne va pas fonctionner. on leur souhaite d'être des licornes. Alors, on passe à l'Amazon. Amazon, c'est notre rubrique dédiée à Amazon. Voilà, on a décidé de l'appeler l'Amazon. L'info qu'on a retenue, c'est qu'Amazon veut doubler son nombre de casiers, ses lockers, sur le territoire aux États-Unis. Aujourd'hui, on en compte 10 000. L'objectif pour Amazon, c'est d'en avoir 20 000 sur tout le territoire. Ce qui est important dans la stratégie d'Amazon avec ses lockers, c'est la stratégie d'implantation physique pour Amazon. Donc, c'est-à-dire que, alors, il existe des magasins Amazon, on en a déjà parlé, sans caisse, voilà, aux États-Unis. L'idée, c'est que pour Amazon avec ses lockers, c'est d'être implanté dans des lieux très stratégiques, des gares, des centres commerciaux. Moi, cet été, j'en ai vu dans un port à Barcelone. J'ai vu des Amazon Lockers. Voilà, tous ces lieux de passage pour faire en sorte que Amazon soit présent physiquement. Mais aussi et surtout, c'est une méthode de livraison supplémentaire dans tout le catalogue de livraison déjà proposé par Amazon.
Tu as déjà des lockers en France, mais je ne sais pas s'ils sont très utilisés. On l'a déjà vu, je n'ai jamais eu la possibilité, moi, de retirer quelque chose dans les lockers. Deuxième news sur Amazon, donc dans l'Amazon, le service de livraison Amazon Counter qui va débarquer en France, c'est des points relais, pour le faire très simple. Donc 1000 points relais qui vont être dans les maisons de la presse. C'est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup, c'est un réseau de librairies. Ils avaient déjà déployé ce service en Italie et au Royaume-Uni. Et là, donc le service avait été déployé aux États-Unis en juin 2019 dans un autre dans un réseau propre aux États-Unis. On va voir en France quel va être l'impact. Pour compléter la news, on voit beaucoup d'innovations en amont Amazon sur le process, la supply chain, l'offre, le prix, le site, et également jusqu'au dernier kilomètre, jusqu'au le plus proche du client, que ce soit via des lockers, via des points relais ou via des innovations sur la livraison au dernier kilomètre.
Les news en vrac. Alors moi, j'ai retenu une info, c'est que Facebook Messenger est la première messagerie de France. Alors moi, pourquoi je la retiens, c'est parce que il faut pas oublier que pour Mark Zuckerberg, l'avenir de Facebook va passer forcément par les messageries instantanées. WhatsApp, voilà, qui appartient à Facebook, mais surtout Facebook Messenger. Il y a plus de 26 millions d'utilisateurs Facebook Messenger versus 22 sur WhatsApp. Le troisième, c'est Skype. Et ça, c'est une étude du journal du Net, Médiamétrie, Netrating, qui est parue là cette semaine. Moi, je pense que c'est important et surtout de mettre ça en perspective avec le e-commerce, tout simplement parce que moi, sur Facebook, et c'est mon usage vraiment très personnel, je suis dans des communautés sur différentes choses, notamment sur le retail, voilà. Et via ces groupes-là, on discute sur Messenger. Et souvent, y a des nanas qui expérimentent des bots, des robots, pour faire des expériences d'achat. Et voilà pourquoi moi je trouvais que c'était bien, parce que c'est quelque chose que je ne vois que sur Messenger. Et je pense que il y a quelque chose à faire, e-commerce, messagerie instantanée, et en l'occurrence Messenger. Amazon et Microsoft Azure sont les providers cloud les plus utilisés dans la tech. Donc c'est aussi, je crois, une news que j'ai glanée sur le JDN. Donc l'AWS est le premier. Il y aurait plus de 50% des professionnels qui utiliseraient AWS. En deuxième, ce serait donc Azure. En troisième, Google Cloud. Et en tout dernier, Alibaba Cloud. Ce que j'expliquais à Adrien, c'est que je ne savais même pas qu'Alibaba avait lancé son propre cloud. Bon, ce qui fait totalement sens, hein, mais juste, j'étais pas au fait de cette news.
On termine, Laetitia, si tu veux bien, avec un petit quiz.
Allez. Alors,
pour cette semaine, c'est moi qui vais te faire le quiz sur l'e-commerce en Allemagne. C'est un article qui m'avait donné envie de sur e-commerce news qui m'avait donné envie de te faire ce petit quiz. Alors, faut pas que tu cliques sur le lien, bien sûr, sinon c'est pas amusant. L'article reprend les 10 e-commerçants en ligne, donc les 10 e-commerçants les plus gros en Allemagne, et je voulais savoir si tu les connaissais, donc on va commencer par le numéro 10 et tu vas me dire si tu as une idée de ce qu'ils peuvent vendre.
Okay.
Et je trouve ça assez amusant. Donc numéro 10, c'est Alternate. Est-ce que tu connais? Ils font 500 millions de chiffre d'affaires, de revenus.
Pas du tout, non.
Donc ils vendent de l'électronique. Saturn.
Ah oui, Saturn, il y avait même des magasins en France, donc c'est tout ce qui est électronique. C'est un genre de boulanger, quoi.
Boulanger, Fnac, exactement. Donc, ouais. 546 millions. Cybersport, 555 millions.
Ils vendent des articles de sport.
Non, pardon, cyberport. C'est pas cybersport, cyberport.
Bah, j'allais dire ils vendent des ports, mais non, ça marche pas.
C'est également électronique. Bon prix.
Ah, je connais. C'est pas une marketplace, non?
Qu'est-ce qu'ils vendent?
Ils vendent de l'high-tech aussi. Mmh. C'est un genre de supermarket, là. C'est aussi une marque qui vend du multimédia, non?
Donc, c'est pas une marketplace, ils vendent simplement c'est de la mode.
Ouais, de la mode.
Lidl, 757 millions, on connaît bien. Celui-ci, numéro 5, 878 millions. Notebooks Billiger.
Ah oui, Notebooks Billiger. J'en ai parlé dans un épisode. C'est du média, du... Ah, ils vendent des livres, c'est un genre de Fnac, non?
Exactement, avec de l'électronique. Ouais. Media Market, 987 millions.
Oui, voilà, alors c'est la même chose que c'est un genre de Fnac. Voilà.
Ouais, Darty, exactement. Zalando, 1,4 milliard.
On les connaît.
Otto, pour 3,2 milliards.
Ah, c'est O de Théo, c'est ça,
ça.
C'est une chaîne de supermarket, ça, enfin de... Oh, comment est-ce qu'on dit ça? C'est un genre de Franprix, quoi.
Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est également un groupe qui a 36 sociétés, plus de 36 sociétés, et il y en a certaines qu'on connaît pas et d'autres qu'on connaît. Les deux que j'avais notées que je connaissais, qu'on serait capable de connaître ici, c'est Hermès, le transporteur, et ouais. Mondial Relais, on en parlait tout à l'heure sur les points relais, c'est le groupe Otto. Et enfin, numéro 1 à 9,2 milliards d'euros, à ton avis Ça commence par un A.
J'allais te dire. Non, je ne sais pas.
Amazon, tout simplement.
Ah, Amazon. Ah, mais je cherchais une boîte allemande, moi.
Justement, ouais, exactement. Donc, sur le top 10, le numéro 1, c'est trusté par Amazon. Et tous les autres sont des acteurs allemands. Et je trouvais ça assez... Bon, si on pourrait s'amuser à faire la même chose en Angleterre et en France. En tout cas, ici, du numéro 2 ou du numéro 10, il y en a certains qu'on connaît. Et la plupart, ouais.
Moi, je précise que je travaille pour une boîte allemande quand même. Donc, c'est un peu la honte pour moi.
Il n'y a pas de honte. Tu t'achètes pas localement là-bas. Donc, tu n'es pas censé non plus être consommateur.
Merci beaucoup à tous d'avoir partagé avec nous cet agréable moment. Pour retrouver les références de cet épisode, rendez-vous dans les notes de l'émission ou sur le site lecafedelecommerce.fr. Et profitez-en pour vous inscrire à notre newsletter.
Si vous voulez participer à nos interviews, si vous avez le moindre commentaire, nous vous invitons à nous contacter par email info@lecafedelecommerce.fr ou à remplir notre formulaire disponible soit sur le site de l'émission ou directement dans la description de l'épisode que vous écoutez.
Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à laisser un commentaire et 5 étoiles sur iTunes. Dans les autres cas, partagez cet épisode autour de vous. Faites du bruit.
Et nous sommes disponibles sur toutes les plateformes de podcast, a priori. Si vous souhaitez, enfin, s'il y a une plateforme sur laquelle nous ne sommes pas disponibles, n'hésitez pas à nous contacter et on verra ce qu'on peut faire. Mais a priori, si vous nous écoutez, c'est que vous avez réussi à nous trouver. Merci à tous. À très vite.
À très bientôt.